chargé de sa croix dans la deuxième, qui n'est autre en fait que notre croix, et voilà qu'après avoir accompli une certaine distance, notre Seigneur tombe pour la première fois sous le poids de sa croix, troisième station de notre chemin de croix. Si nous essayons de nous représenter un petit peu cette scène, nous ne devons pas oublier tout ce qui la précède. Nous ne devons pas oublier, même si nous n'en avons pas beaucoup parlé, de l'agonie au jardin des Oliviers. Cette vision épouvantable de nos péchés, de nos crimes, qui font que le Sauveur va demander que ce calice s'éloigne de lui. Il nous est tous, très probablement, arrivé un jour d'avoir eu peur, d'avoir réellement eu peur, ou d'être dans une certaine angoisse très grande, ou d'être dans une détresse telle, par exemple à l'occasion d'un examen, pour ceux qui craignent les examens scolaires, hein, d'un deuil, d'une épreuve quasi insurmontable familiale ou professionnelle, d'une agression physique, ça peut arriver, que nous en ayons eu, comme on dit, les jambes coupées, les jambes qui tremblent, comme si tout à coup le sol s'affaissait sous nos pieds. La peur, quand elle est là, véritablement et très fortement, souvent fait que nous n'avons plus de force ou de résistance, que nous sommes comme anéantis par l'épreuve qui fond sur nous, et bien pour cette première chute. Probablement, c'est ce que notre Seigneur, dans son humanité, a ressenti. L'angoisse du péché de ceux qu'il aime. La haine autour de lui. La solitude, car dans cette foule, il n'y a pas de visage ami. La faiblesse physique. N'oublions pas, notre Seigneur a été flagellé et flagellé abondamment. Qu'il porte sur sa tête une couronne d'épines qui le fait souffrir et que la croix frotte son dos qui n'est qu'une plaie. La peur de la souffrance, car il sait qu'il se dirige vers le Golgotha où il va être crucifié. Alors oui, son humanité bien réelle fait qu'il tombe et que le voilà à terre, mordant la poussière, lui qui est pourtant le Dieu Tout-Puissant. Nous pouvons être fiers, nous avons mis le Christ à terre par nos péchés. Nous l'avons mis à nos pieds, nous l'avons humilié en ne respectant pas sa volonté, nous l'avons méprisé. Nous, petits vers de terre orgueilleux, nous lui avons fait, encore une fois, mordre la poussière. Monseigneur du Coubourget, dans ce chemin de croix dont je vous parlais, dans cette première chute, voit les fautes de la jeunesse. Les fautes de notre jeunesse, jeunesse où nous nous autorisons, où nous nous sommes autorisés tant de péchés. « Oh, j'étais jeune !» entend-on souvent. Le Saint-Curé d'Ars disait, et il connaissait bien les pécheurs, par ses longues heures quotidiennes au confessionnal, il disait « Nous donnons notre jeunesse au démon, et le reste à Dieu qui est si bon, qu'il veut bien s'en contenter. » Quelles sont belles les âmes pure des jeunes garçons ou des jeunes filles non abîmés par la lèpre du péché, par la lèpre souvent de l'impureté, par la lèpre de l'insolence envers les parents, par la lèpre de la désobéissance. Mais qu'elles sont rares également. En contemplant notre Seigneur à terre dans la poussière, ce qui a dû faire redoubler les sarcasmes de ceux qui assistaient au spectacle, nous pouvons également demander une nouvelle fois la vertu d'humilité. La vertu d'humilité, l'humilité de savoir reconnaître nos fautes, de savoir reconnaître notre orgueil, celui qui est le Fils de Dieu, celui qui est la force de Dieu, est à terre, et nous qui ne sommes que des créatures, avec toutes leurs faiblesses, nous nous sommes si souvent enorgueillis de ceci ou de cela. Nous nous sommes si souvent comparés à notre prochain. Nous avons si souvent méprisé les autres. Nous nous sommes si souvent estimés dans une certaine indépendance vis-à-vis de Dieu, faisant ce que bon nous semble. Le cardinal Ratzinger, en 2005, quelques semaines avant d'être élu pape, dans le chemin de croix au Colisée le Vendredi Saint, insistait dans cette station, troisième station, sur l'opposition entre notre orgueil et l'humilité du Fils de Dieu. Je le cite. La chute de Jésus sous la croix n'est pas seulement la chute de l'homme Jésus déjà épuisé par la flagellation. Ici apparaît quelque chose de plus profond. Comme dit saint Paul, lui qui était dans la condition de Dieu, il n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. Dans la chute de Jésus sous le poids de la croix apparaît tout son parcours, son abaissement volontaire pour ôter notre orgueil. Et en même temps apparaît la nature de notre orgueil, l'arrogance avec laquelle nous voulons nous émanciper de Dieu et n'être rien d'autre que nous-mêmes, l'arrogance avec laquelle nous croyons ne pas avoir besoin de l'amour éternel, mais avec laquelle nous voulons maîtriser notre vie tout seul. Dans cette rébellion contre la vérité, disait le pape, le cardinal, dans cette tentative d'être nous-mêmes des dieux, d'être créateurs et juges de nous-mêmes, nous tombons et nous finissons par nous détruire nous-mêmes. L'abaissement de Jésus est le dépassement de notre orgueil. Par son abaissement, il nous relève. Dépouillons-nous de notre autosuffisance, de notre envie erronée d'autonomie, et au contraire, apprenons de lui qui s'est abaissé, à trouver notre véritable grandeur en nous abaissant et en nous tournant vers Dieu et nos frères humiliés. Louis Veuillot disait « L'homme n'est grand qu'à genoux ». En contemplant donc dans cette troisième station Jésus à terre, demandons-lui de nous délivrer de notre orgueil. Et pour cela, essayons également d'agir. Nous pouvons toujours demander en boucle la vertu d'humilité. Il faut agir. Souvent nous demandons beaucoup, mais nous ne changeons pas beaucoup car nous avons du mal pour passer aux actes et nous restons dans la pure velléité. Lui, notre Seigneur, pour nous montrer l'exemple, a accepté d'être dépouillé, d'être chargé d'une croix, d'être insulté, d'être haï, lui qui est là, l'amour infini. Et bien demandons-lui également la force de reconnaître notre petitesse, la force pour accepter parfois d'être oublié des hommes afin de ne vivre réellement que pour plaire à lui. Et également de comprendre que nous ne sommes que des petites créatures, que Dieu est infiniment sage, que nous devons accepter de sa main ce qu'il nous enverra sans nous plaindre. L'écrivain Cronin raconte cette histoire de ce vieillard venant prier à Vienne en Autriche pendant la guerre, dans une des rares églises encore intactes, accompagné d'une petite fille infirme dont les parents avaient été tués lors d'un bombardement. Et tous les jours, ce vieillard et cette petite fille venaient mettre un cierge à l'église de la paroisse. Un cierge pour montrer à Dieu qu'il ne lui en voulait pas. Ne pas se plaindre et accepter ce que Dieu permet pour nous. Quatrième station, Jésus rencontre sa très sainte mère. Et là, nous allons lire encore quelques lignes de Monseigneur du Coubourget. Sur cette quatrième station, qui interrompt cette quatrième station, la marche vers le calvaire. Interruption par une rencontre. La rencontre de la Vierge fidèle. La rencontre de celle qui n'abandonne jamais son enfant, c'est-à-dire la mère. Je cite Monseigneur du Coubourget, « Souffrir soi-même, c'est encore possible, mais voir souffrir à cause de soi ce qu'on aime, ça, c'est insupportable. Il y a là une aggravation de peine que les bourreaux les plus cruels seuls peuvent imaginer. Voici le chemin entre les maisons qui ouvrent des fenêtres curieuses sur l'agréable spectacle, un homme défiguré qui va mourir. Il a tout reçu jusqu'ici, mépris, calomnie, injures, soufflets, dérision, brutalité. Il est précédé par deux voleurs, car dans les processions, l'on place le plus marquant en dernier lieu. Il est donc le plus coupable, le plus indigne, et l'on rit. Des lazis partent des lèvres jeunes et de vieilles bouches édentées. Les papillotes rituelles s'agitent avec contemption. Il ne va pas bien vite sous sa croix, ce faux prophète. Il n'en finit pas d'arriver au calvaire. Quoi ? Pourquoi s'arrête-t-il encore ? Il est tombé tout à l'heure, quelle mauviette ! Et maintenant, voilà qu'il empêche le cortège d'avancer. Frappez donc. Que se passe-t-il ? Il y a une femme auprès de lui. L'effrontée. Avoir percé les rangs des soldats romains, quelle impudeur ! Qu'est-ce ? Une de ces prostituées qui le suivait à la trace comme des chiennes ? Que dites-vous ? C'est sa mère. Cet homme-là a donc une mère. C'est incroyable. Les criminels peuvent-ils avoir une mère ? Oui, c'est Marie de Nazareth. On n'a jamais rien eu à dire sur elle. Donc cette quatrième station de la croix nous rappelle à nouveau que l'amour ne se montre, ne se réalise vraiment que dans le sacrifice, que dans l'oblation, que dans une certaine souffrance commune. Et la Sainte Vierge, qui est bien sûr la créature qui a le plus aimé notre Seigneur, qui est celle dont le cœur immaculé a battu au même rythme que celui de son Fils, qui est celle dont la volonté a épousé parfaitement la volonté de son Fils, la Sainte Vierge se devait d'être là sur ce chemin pour souffrir avec lui. Ce n'est pas autour d'une table que l'on reconnaît ses amis, mais c'est en prison. La prophétie du vieillard Siméon, 33 ans plus tôt, prend ici tout son sens. Cet enfant est né pour la résurrection et la ruine d'un grand nombre en Israël. Un glaive de douleur transpercera votre âme. Ce glaive, le voilà. Cette rencontre de Notre-Dame avec son Fils sur le chemin du calvaire n'aura duré certainement que quelques courtes secondes. On peut bien l'imaginer, car il ne fait pas de doute que les soldats romains et la foule n'avaient pas le cœur à se laisser attendrir, mais quelle seconde dans le cœur de Notre-Dame et le Sacré-Cœur de notre Seigneur ? Aura-t-elle cherché à retenir son Fils ? Aura-t-elle cherché à clamer son innocence ? Eh bien, certainement pas, car la très sainte Vierge, Marie, savait très bien depuis longtemps que son Fils se devait être, ou se devait d'être, aux affaires de son père, elle avait, nous dit l'évangéliste, médité cette parole dans son cœur à la suite du recouvrement de Jésus au temple. Elle connaissait les prophéties. Elle savait qu'Isaïe avait dit « Beaucoup ont été dans la stupeur en le voyant, tant il était défiguré, son aspect n'étant plus celui d'un homme, ni son visage celui des enfants des hommes. » Mais, bien sûr, quelle douleur a dû être la sienne en voyant son fils bien-aimé, le plus beau des enfants des hommes, le visage, ce visage qui fait la joie des anges, tuméfié et couvert de crachats. Mais cette rencontre qui a dû être d'un côté extrêmement douloureuse, tant pour la mère que pour le fils, a dû également être un encouragement extraordinaire pour notre Seigneur et une source de sanctification très grande pour Notre-Dame. Encouragement car il a dû voir notre Seigneur dans les yeux de sa mère, derrière les larmes qui voilaient ses yeux très purs. Il a dû voir au milieu de cette foule haineuse, enfin, une âme qui comprenait exactement ce qu'il était en train d'accomplir et qui en était infiniment fière et reconnaissante. La seule, sans doute, car comme le disent les litanies des frères prêcheurs, Marie est la seule qui, au pied de la croix, a conservé la foi. Elle était, encore une fois, toute unie aux souffrances de son fils et à sa volonté, et elle glorifiait dans son cœur son fils qui était en train d'accomplir l'œuvre du salut. Et ce soutien, cette reconnaissance fut énorme pour le cœur de l'homme-Dieu. Au Jardin des Oliviers, notre Seigneur avait invité ses trois apôtres préférés, ceux qu'il avait pris avec lui sur le mont Tabor pour sa transfiguration, il les avait invités à prier avec lui. Il les avait invités à le soutenir. Et ils vont s'endormir. Vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi. Eh bien, la Sainte Vierge, elle, est présente sur le chemin du calvaire. Elle veille, elle compatit, c'est-à-dire qu'elle souffre avec son fils. Elle lui est unie. Le bienheureux Charles de Foucault disait, quand on aime et on souffre, on fait ce qu'il y a de plus grand au monde. Et c'est ce que la Sainte Vierge a fait. Donc la présence de sa mère a été un encouragement profond. Et pour Notre-Dame, je le disais, elle a été une source de sanctification. Sanctification car l'épreuve acceptée, et pouvait-il y avoir une plus grande épreuve pour elle ? Certainement pas. L'épreuve acceptée, pour ne pas dire épousée, par amour pour Dieu qui la veut ou la permet, montre combien nous aimons Dieu. Il n'y a, encore une fois, que l'épreuve qui peut vraiment révéler notre amour et qui peut aussi le purifier. Et dans l'âme de Marie, sur le chemin du calvaire, il n'y a bien sûr pas de haine, il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas de désir de vengeance contre les bourreaux de son fils, mais il y a cette parfaite soumission à l'amour de Dieu. Heureuse celle qui a cru, car elles seront accomplies les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur. C'est ce que lui avait dit 33 ans plus tôt sa cousine Élisabeth lors de la visitation. Toute sa vie, Notre-Dame a cru et n'a pas douté, ne serait-ce qu'une seconde, et nous devons lui demander la grâce quand des choses vraiment scandaleuses, il y en a, quand des choses scandaleuses arrivent sur terre ou touchent des proches de nous. Parfois, nous devons demander la grâce de continuer à croire, car nous savons que les épreuves, si elles peuvent nous faire grandir, sont aussi pour beaucoup l'occasion de perdre la foi, ou l'occasion de se révolter contre la sagesse tellement mystérieuse de Dieu. La croix est bien, comme le dit saint Paul, folie pour les juifs et scandale pour les gentils. Il faut une grâce pour accepter et dire le fiat que Notre-Dame avait prononcé le jour de l'Annonciation et qui n'a jamais été repris depuis. Et nous pouvons peut-être lire le Magnificat, ce chant d'action de grâce de Notre-Dame, prononcé le jour où elle visita sa cousine Élisabeth, chant d'action de grâce, donc au moment de l'incarnation du Fils de Dieu dans le Sainte-Marie, nous pouvons le lire ou même peut-être l'imaginer dans la bouche de Notre-Dame lors de cette rencontre sur le calvaire. « Mon âme glorifie le Seigneur et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur. » Notre-Dame aurait pu le dire à cet instant précis, car elle a rendu gloire à Dieu. Par sa présence, elle a dû être dans sa douleur profonde, heureuse d'être là, heureuse d'être auprès de lui quand, dans son humanité, il en avait tant besoin. Heureuse d'épouser sa croix. Souvenez-vous de cette histoire de sainte Marguerite Diouville, qui avait fondé l'hôpital général de Montréal au XVIIIe siècle, et puis cet hôpital, le 18 mai 1765, est détruit par un incendie qui va emporter avec lui un certain nombre de malades et un certain nombre de religieuses, et elle est devant cet hôpital en cendres, et elle s'agenouille avec ses sœurs devant le bâtiment et leur fait chanter le Te Deum, l'hymne d'action de grâce. Dieu a donné, Dieu a repris, Dieu soit béni. Et rappelons-nous dans nos épreuves, dans nos difficultés, dans les persécutions que nous pouvons subir, cela peut arriver, dans les incompréhensions face à nos choix, eh bien, que Notre-Dame est là. Elle s'est déplacée, Vierge fidèle, pour manifester à son Fils son soutien sur le chemin menant au Golgotha. Eh bien, elle se déplace également, elle est à nos côtés, nous, ses nouveaux fils et filles dont elle a hérité au pied de la croix, elle est à nos côtés pour nous consoler dans nos tristesses de la terre. Elle est la Vierge de la consolation, la Vierge de la pitié, et nous pouvons penser à cette prière, vous l'avez certainement lue ou parcourue rapidement dans un des multiples livres de piété où elle se trouve, de l'abbé Pérève. Vierge sainte, au milieu de vos jours glorieux, n'oubliez pas les tristesses de la terre. Jetez un regard de bonté sur ceux qui sont dans la souffrance, qui luttent contre les difficultés et qui ne cessent de tremper leurs lèvres aux amertumes de cette vie. Ayez pitié de ceux qui s'aimaient et qui ont été séparés. Ayez pitié de ceux qui souffrent de l'isolement du cœur. Ayez pitié de la faiblesse de notre foi, ayez pitié de ceux que nous aimons, ayez pitié de ceux qui prient, de ceux qui tremblent, de ceux qui pleurent, donnez à tous l'espérance et la paix. Cinquième station, Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Simon, c'est nous. Dans le petit livre bleu, vous connaissez probablement, de prière de la Fraternité Saint-Bilice, très bien fait. On trouve des méditations des petits vers pour chacune des stations, et ceux qui accompagnent cette cinquième station sont: Simon fut requis lors de la passion, mais pécheur, retient l'invitation pour toi. L'évangile précise que, je cite, comme il sortait, ils rencontrèrent un homme de Cyrène nommé Simon, qu'ils réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Simon de Cyrène ne fut pas volontaire. Simon de Cyrène fut réquisitionné. Et comme lui, eh bien Dieu veut que nous portions notre croix. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il se renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'ils me suivent. Cette croix que nous devons porter, c'est celle du calvaire, c'est-à-dire celle que nous devons unir à celle du calvaire, sinon elle n'a aucun sens. C'est le petit bout de celle du calvaire qui nous est réservé, car notre Seigneur a porté sa croix pour nous sauver, mais il veut encore une fois que nous participions à notre petite mesure, à notre sauvetage. Il ne veut pas nous sauver sans nous. Il veut que nous soyons partie prenante de notre salut. Le bon Dieu ne nous sauvera pas malgré nous. Saint Augustin dit « Dieu qui nous a créés sans nous ne nous sauvera pas sans nous. » Nous devons participer à notre salut. Au ciel, il n'y aura pas de personnes qui seront au ciel malgré elles, qui n'ont pas voulu y aller. Dieu respecte notre liberté et il nous permet de choisir. Simon fut réquisitionné, nous le savons, mais nous, eh bien, il nous faudrait nous porter volontaires. Nous devrions essayer de voir les besoins des autres avant d'être sollicités directement, avant d'être réquisitionnés. À la maison, par exemple, nous ne devons pas attendre nécessairement qu'on nous demande tel ou tel service pour l'accomplir. Même si à la maison, en général, les mères de famille en font plus, hein, c'est sûr. Mais malgré tout, nous devons, nous voyons bien, surtout si nous avons des yeux et si nous avons un cœur, les menus services que nous pourrions rendre aux uns et aux autres et que malgré tout, nous ne rendons pas. Combien de fois, dans des petites choses ou parfois dans des grandes, agissons-nous contre notre conscience qui nous sollicite de faire une bonne action et nous nous disons c'est pas nécessaire, il va bien y arriver tout seul. Puis il m'a rien demandé, c'est pas si important que cela, on se cherche des excuses. Dans l'évangile, notre Seigneur prêche la charité envers le prochain et on lui demande qui est mon prochain ? Et Jésus répond par la parabole que vous connaissez, qu'un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, fut attaqué, dépouillé par des voleurs, et vous connaissez la suite, le Lévite, le pharisien, ne s'arrêtèrent pas en le voyant, et cet homme dépouillé, c'était notre prochain. Celui qui a besoin de quelque chose, celui qui a besoin d'un sourire à la maison, celui qui a besoin d'un peu d'attention, celui qui a besoin d'un encouragement, c'est notre prochain. Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Mais on est plongé dans une série télévisée, dans Downton Abbey ou je sais pas quoi. Dans 5 minutes j'arrive. Voilà. Ben, on peut mettre sur pause. Dans cette 5e station donc. Simon va aider notre Seigneur, il va porter un bout de sa croix, il va l'aider. Et, comme pour Notre-Dame, mais d'une manière différente, cet acte va le sanctifier profondément. En aidant les autres, en faisant du bien aux autres, c'est d'abord à nous que nous faisons du bien. Si on réfléchit un peu, si nous essayons de nous plonger dans le décor du chemin de croix de notre Seigneur, Simon de Cyrène était certainement, comme les autres, à regarder le spectacle. Le Seigneur du Gouvorgé, je ne crois pas que je le cite, a des très bons mots là-dessus. Et comme les autres, il devait dire, tiens, le condamné à mort passe. Il avait peut-être un peu de pitié, mais il devait se dire, il l'a bien mérité. S'il est condamné à mort, c'est que ça doit être un grand criminel. On a très rarement de la sympathie pour ceux qui partent en prison ou pour ceux qui sont condamnés à mort. Bon, ça n'arrive plus chez nous. S'ils sont condamnés, c'est qu'ils ont sans doute commis de grands crimes. Bon, notre Seigneur nous montre ici que ce n'est pas toujours la règle. Et je crois que nous avons tort de ne pas avoir, malgré tout, une certaine sympathie pour les prisonniers et pour les condamnés. On peut penser à la petite sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, vous connaissez l'histoire, mais on va quand même la relire. Elle avait 14 ans, et elle s'était prise d'affection spirituelle pour l'âme d'un condamné à mort. J'entendis parler d'un grand criminel qui venait d'être condamné à mort pour des crimes horribles. Les crimes horribles, il n'en est pas fait mention dans son histoire d'une âme. Il avait égorgé 3 personnes, dont une enfant. tout porté à croire, c'est sainte Thérèse, qu'il mourrait dans la pénitence. Je voulus à tout prix l'empêcher de tomber en enfer. Afin d'y parvenir, j'employais tous les moyens imaginables. Sentant que de moi-même, je ne pouvais rien, j'offris au bon Dieu tous les mérites infinis de notre Seigneur, les trésors de la Sainte Église. Enfin, je priais Céline de faire dire une messe dans mes intentions, n'osant pas la demander moi-même, dans la crainte d'être obligé d'avouer que c'était pour Pranzini, le grand criminel. Je ne voulais pas non plus le dire à Céline. Mais elle me fit de si tendres et si pressantes questions que je lui confiai mon secret. Bien loin de se moquer de moi, elle me demanda de m'aider à convertir mon pécheur. J'acceptai avec reconnaissance, car j'aurais voulu que toutes les créatures s'unissent à moi pour implorer la grâce du coupable. Je sentais au fond de mon cœur la certitude que nos désirs seraient satisfaits. Mais afin de me donner du courage pour continuer à prier pour les pécheurs, je dis au bon Dieu que j'étais bien sûr qu'il pardonnerait au pauvre malheureux Pranzini, que je le croirais même s'il ne se confessait pas et ne donnait aucune marque de repentir, tant j'avais de confiance en la miséricorde infinie de Jésus. Mais que je lui demandais seulement un signe de repentir pour ma simple consolation. Ma prière fut exaucée à la lettre, malgré la défense que papa nous avait faite de lire aucun journal. Je ne croyais pas désobéir en lisant les passages qui parlaient de Pranzini. Le lendemain de son exécution, je trouve sous ma main le journal La Croix. Je l'ouvre avec empressement. Ah, ça n'a rien à voir, il ne faut pas s'abonner à La Croix aujourd'hui. C'était une autre époque. Je l'ouvre avec empressement et que vois-je ? Ah, mes larmes trahirent mon émotion et je fus obligé de me cacher. Pranzini ne s'était pas confessé. Il était monté sur l'échafaud, s'apprêtait à passer sa tête dans le lugubre trou, quand tout à coup, saisi d'une inspiration subite, il se retourne, saisit un crucifix que lui présentait le prêtre et baise par trois fois ses plaies sacrées. J'avais obtenu le signe demandé et ce signe était la reproduction fidèle de grâce que Jésus m'avait faite pour m'attirer à prier pour les pécheurs. Et plus tard, elle appellera Pranzini son premier enfant. Donc revenons au chemin de croix. Simon devait être au spectacle, comme tout le monde, et voilà qu'on le réquisitionne. Et devant tout le monde, il va devoir porter la croix d'un criminel et subir un peu avec lui les colibets de la foule. Et il n'a probablement pas dû bondir de joie quand on lui a demandé ce service. Il a même dû avoir honte de se retrouver seul devant tout le monde en telle compagnie. On peut se mettre un peu à sa place. Probablement au début, il a dû râler, se plaindre, murmurer entre ses dents, avoir des mouvements brusques et gauches. Car quand on accomplit un travail demandé qui ne nous plaît pas et ne nous revient pas normalement, eh bien souvent on le bâcle et on l'accomplit de mauvais cœur, surtout quand on ne voit pas le bien qui peut en sortir, on y voit seulement une injustice. Et pourtant, s'il a été gauche au début et certainement désagréable, la tradition nous dit que la grâce va le toucher. Au contact du Christ, la grâce passe. En se penchant vers le Christ, la grâce passe. On peut penser également, il était déjà catéchumène, à saint Martin donnant la moitié de sa cape ou de son manteau à un pauvre et le voyant le soir, voyant en soir le Christ lui apparaître. On peut penser à la bienheureuse Mère Teresa, bientôt sainte, ramassant son premier mourant. Combien de fois, peut-être dans nos vies, le Christ nous tend-il les mains et nous ne le voyons pas ? Un peu comme les disciples d'Emmaüs qui avaient cheminé une partie de la journée avec le Christ, qui ne l'avaient pas reconnu et qui diront le soir à la fraction du pain : notre cœur n'était-il pas tout brûlant ? et certainement donc ce pauvre Simon de Cyrène, au contact du Christ de manière bien particulière, sans qu'il l'ait cherché, eh bien, va être touché et va être profondément transformé. Au contact de Jésus, la grâce passe. On peut penser également à Tim Guénard. Vous avez peut-être lu le livre, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, là, hein, enfin, Plus fort que la haine. Voilà. Abandonné à 3 ans par sa mère, envoyé à l'hôpital par la violence de son père à 5 ans, mis en maison de correction à 11, et grandissant, avec un seul but dans la vie, retrouver son père pour le tuer. Voilà. Eh bien, à travers cette vie terrible, bien décrite, il va être amené un jour à l'arche de Jean Vanier, qui s'occupe d'handicapés. Et là, il était boxeur, donc rempli de haine. Il va être désarçonné par un petit garçon là, un petit handicapé, qui va lui mettre la main sur l'épaule en lui disant qu'il l'aime. Et c'est le Christ, les petits, et la grâce passe. Quand j'ai découvert, écrira-t-il, la communauté de l'Arche, j'ai compris à leur simplicité qu'il n'était pas nécessaire d'être grand pour s'approcher du boss. Le boss, c'est Dieu. Si je suis devenu chrétien, c'est grâce à l'un d'entre eux. Et donc, il va se convertir et puis passer sa vie à témoigner un petit peu de son histoire. Donc faisons du bien autour de nous et nous trouverons le Christ, ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'aurez fait. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Bon, il faut faire attention aussi quand même un peu. Hein. Nu et vous m'avez vêtu. Ceci étant dit, dans l'évangile, il faut quand même, malgré tout, hein, il y a une tradition d'accueil de l'étranger qui est tout à fait évangélique. Les circonstances actuelles sont différentes, mais il ne faudrait pas non plus tomber en se disant non, l'évangile prône l'accueil de l'étranger. Alors aujourd'hui, les circonstances sont vraiment différentes, mais on doit garder dans notre cœur, malheureusement, le fait on devrait désirer, même si on ne peut pas le faire et qu'il ne faut pas le faire. On devrait souffrir pour ces gens qui, pour certaines personnes, qu'on devrait accueillir et qu'on ne peut pas accueillir aujourd'hui. Il ne faut pas non plus complètement fermer notre cœur et se dire c'est les étrangers, point final. Non, les étrangers aussi ont une âme et ont aussi une histoire terrible, ont aussi des enfants, etc. Même si peut-être les circonstances actuelles font qu'on ne peut pas, non plus être complètement indifférent et tomber dans du mépris parce qu'il y a aussi beaucoup de misère. Hein. Voilà. Donc soyons des Simon de Cyrène. 6e station, Sainte Véronique essuie la face de Jésus. Sainte Véronique, c'est elle aussi une sorte de Simon de Cyrène ou Simone de Cyrène. Sauf qu'elle, elle s'est portée volontaire. Elle n'a pas attendu d'être réquisitionnée. Et c'est vrai que les femmes sont parfois plus courageuse que les hommes. Parfois. Elle s'est présentée avec un linge. Elle a essuyé la face de notre Seigneur couverte de sang, de crachat, de sueur. Et en réponse à cet acte de charité unique, en réponse à ce courage qu'elle a eu face à des gens haineux, eh bien, elle a obtenu la grâce à laquelle elle ne s'attendait pas, de voir le visage du Seigneur s'imprimer sur le voile qu'elle avait utilisé. Le respect humain, la honte, la lâcheté, on peut trouver un certain nombre de raisons pour lesquelles bien souvent, eh bien nous, moi, nous ne faisons pas le bien que nous devrions faire. Nous ne défendons pas celui qui devrait être défendu. Nous ne nous mettons pas du côté de celui qui a raison, mais qui est minoritaire ou qui est raillé. Relisons l'évangile. Celui qui me confessera devant les hommes, moi aussi, je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi, je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. Sainte Véronique n'a pas eu peur, ou si elle a eu peur, l'amour a été plus fort. Et nous devons, à sa suite, avoir le courage de confesser le Christ, doucement mais sûrement. Elle n'est pas dépeinte comme insultant les gardes, comme prêchant avec véhémence et reprochant aux soldats et à la foule leur conduite, mais elle agit sans un mot et prend la défense par son geste du Christ. On raconte dans l'histoire des fiches, début du siècle dernier, quand les soldats et d'autres étaient fichés, les officiers étaient fichés pour ceux qui allaient à la messe, etc. On voit si c'est... Je fais une petite recherche pour vous. Les mentions VLM qu'on mettait sur leur fiche, va à la messe. VLM à elle, va à la messe avec un livre. Il y avait les appellations qu'on mettait sur les fiches. Clérical, cléricalisant, cléricafard, cléricanaille, calotin pur sang, jésuitard, grand avaleur de bon Dieu, vieille peau fermée à nos idées, ralliée à la République, n'en porte pas moins un nom à particules, et puis des événements, suit les processions en civil, a assisté à la messe de première communion de sa fille, membre de la société de Saint-Vincent-de-Paul, a ses enfants dans une jésuitière, reçoit la croix chez lui, a qualifié les maçons et les républicains de canailles, de voleurs et de traîtres, richissime, a une femme très fortunée, a reçu la bénédiction du pape à son mariage par télégramme, etc. Donc on voit dans l'affaire des fiches, qui était quand même très importante, climat extrêmement hostile au catholicisme, avec des représailles. L'on vint un jour demander au colonel Foch le nom de ses officiers allant à la messe. Et il répondit, en substance, « Mes officiers à la messe, je ne les connais pas car je suis au premier rang, ils sont tous derrière moi. » Donc le courage de confesser le Christ. Donc essayons, tâchons avec la grâce de Dieu, d'agir, de faire du bien autour de nous à celui qui est le Christ. Le Christ sous un habit caché, comme lors de la Passion, notre Seigneur, roi des rois, était également bien méconnaissable. Mais nous devons apprendre à voir le Christ dans le prochain, et principalement dans le prochain le plus pauvre et le plus abandonné. Nous ne devons pas chercher à avoir systématiquement principalement pour amis les gens les plus sympathiques, les gens les plus charismatiques, mais nous devons penser également à ceux qui ont moins d'amis, à ceux qui sont seuls, comme notre Seigneur l'était sur le chemin du calvaire. Et là, même dans les paroisses, il y a un véritable petit travail voilà, il faut observer un petit peu autour de nous. À ceux après lesquels personne ne court. On peut penser à la devise, c'est pas vraiment une devise, mais c'était une phrase qu'il avait écrite, de Monseigneur Vladimir Gika, on en reparlera, prêtre, né dans une famille princière, et qui avait écrit « Va chercher celui qui n'osait attendre. Donne à celui qui ne te demande pas. Aime celui qui te repousse. Qui se dépouille pour autrui, se revêt du Christ. Rien ne rend Dieu proche comme le prochain. » On connaît tous la chanson Jésus-Christ s'habille en pauvre, et bien très certainement elle se réalise d'une manière ou d'une autre dans nos vies, avec telle ou telle personne, avec un de nos enfants avec qui on a plus de mal. C'est le Christ peut-être qui nous appelle, un peu défiguré, mais c'est lui véritablement. Le but de notre vie sur terre, c'est de nous conformer chaque jour davantage au Christ. Nous sommes chrétiens, c'est-à-dire que nous vivons par la grâce de la vie du Christ. nous le recevons par la Sainte Communion, eh bien, si nous savons le chercher et le trouver dans notre prochain, comme pour Sainte Véronique, le Seigneur en récompense nous donnera l'unique chose qui compte, il imprimera son visage, non pas sur un voile, mais dans nos cœurs. On peut penser à cette petite histoire que j'ai déjà racontée de Sainte Camille de Lely, donc qui a fondé les frères qui s'occupaient des malades, et qui un jour s'occupait d'un malade particulièrement pauvre, se fait appeler à plusieurs reprises par un cardinal, et il le fait attendre. Le cardinal s'impatiente et il lui dit « Eh bien, dites-lui que je suis avec Jésus-Christ, je verrai son éminence quand j'en aurai fini avec Jésus-Christ. » Le cardinal Ratzinger, dans la méditation du chemin de croix au Colisée, disait « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Au début, Véronique voit seulement un visage maltraité et marqué par la souffrance. Mais l'acte d'amour imprime dans son cœur la véritable image de Jésus. Sur son visage humain, couvert de sang et de blessures, elle voit le visage de Dieu et de sa bonté qui nous accompagne aussi dans la souffrance la plus profonde. C'est seulement avec le cœur que nous pouvons voir Jésus. Seul l'amour nous rend capables de voir et nous rend purs. Seul l'amour nous fait reconnaître Dieu qui est l'amour même. Tout cela pour dire que nous pouvons bien étudier notre religion, nous pouvons lire des livres, nous pouvons connaître notre catéchisme, nous pouvons être tradis jusqu'au bout des ongles, c'est très bien, hein, mais ce n'est pas suffisant. Seul l'amour, seule la charité nous fera voir Dieu et nous devons toujours ouvrir nos cœurs. Nous devons savoir nous attendrir. Nous devons compatir à la misère du prochain, sachant que dans cette misère, c'est aussi la misère du Christ souffrant que nous devons voir. Notre Seigneur s'identifie avec les petits, s'identifie avec les persécutés. « Je suis Jésus que tu persécutes. » Il s'identifie avec ceux qui souffrent. « Tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » Septième station, Jésus tombe pour la seconde fois. Monseigneur du Coubourget, qui voyait dans la première chute les fautes de la jeunesse, voit ici les fautes de l'âge mûr. Cet âge où il est facile, alors pour ce chemin de croix, il est quasiment introuvable. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler ou qui le désiraient, moi je l'ai en fichier internet, là je sais pas quoi. Donc c'est très 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 beau chemin de croix. Et que je peux envoyer à quelqu'un qui peut l'envoyer à tout le monde ou je sais pas quoi, mais c'est vraiment un texte très émouvant, assez long, mais une très 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 belle méditation d'une sainte âme. Voilà. Donc il voyait dans ses fautes les fautes de l'âge mûr, cet âge où il est si facile, dans la force, dans la vigueur de nos actions, il est facile d'oublier Dieu et de vivre sans lui. Nous sommes tellement, nous avons une impression de puissance dans l'âge mûr. Nous sommes sûrs de nous, nous sommes entreprenants, et nous pouvons oublier facilement que ce que nous avons reçu et ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. « Qu'as-tu, disait saint Paul, que tu n'aies reçu, et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Nous devrions, normalement, avec l'âge, avec les années passant, nous devrions acquérir une certaine sagesse, mais malheureusement, parfois ou souvent, c'est l'orgueil, c'est l'ambition qui augmente en nous. Nous pouvons caricaturer cet âge de puissance et l'illustrer avec le monde politique, le monde du pouvoir, le monde des affaires, où on nous pense qu'à dominer, fût-ce au prix de son prochain au passage. C'est également l'âge des scandales, l'âge des infidélités, l'âge des guerres, l'âge des avortements parfois, qui sont le signe d'une volonté de jouissance sans assumer les conséquences. Saint Augustin disait « Deux amours, on fait deux cités, l'amour de soi qui va jusqu'au mépris de Dieu » et l'amour de Dieu qui va jusqu'au mépris de Le pape Benoît XVI, s'adressant à des cardinaux en 2007, en consistoire, quand il parle des princes de l'Église, leur disait « La vraie grandeur chrétienne ne consiste pas à dominer, mais à servir. » Jésus nous le répète aujourd'hui à chacun d'entre nous, qu'il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Et donc cette deuxième chute doit nous conduire toujours davantage à la vertu d'humilité. Lui, notre Seigneur, le roi des rois, par amour pour nous, tombe pour la deuxième fois sous le poids de sa croix, c'est-à-dire sous le poids de nos péchés. Il ne s'agit pas sur terre de n'avoir aucune ambition, mais il s'agit d'ordonner nos ambitions et de tout placer sous l'éclairage divin. C'est-à-dire de savoir rester simple, de savoir rester humble et toujours de reconnaître que nous sommes les serviteurs d'un roi très bon qui nous demande, dans toutes les formes de pouvoir qui peuvent être les nôtres, le pouvoir sur nos enfants dans notre famille, pour un père ou pour une mère, qui nous rappelle que nous devons exercer ce pouvoir comme par délégation. Comme par délégation, c'est-à-dire nous rappelant que nous devrons rendre un jour compte à Dieu. Ces enfants qui sont les vôtres, c'est Dieu qui vous les a donnés. Et il vous en demandera un jour compte. Dans sa méditation au Colisée du chemin de croix, le cardinal Ratzinger disait pour cette deuxième chute, « Nous pouvons penser aussi dans l'histoire plus récente que les chrétiens, en se détournant de la foi, ont abandonné le Seigneur. » Les grandes idéologies, comme la banalisation de l'homme qui ne croit plus à rien et qui se laisse simplement aller, ont construit un nouveau paganisme, un paganisme plus mauvais qui, en voulant mettre définitivement Dieu à part, a fini par se débarrasser de l'homme. L'homme gît ainsi sous la cendre. Le Seigneur porte ce poids, il tombe et il tombe pour pouvoir venir jusqu'à nous. Il nous regarde afin que notre cœur se réveille, il tombe pour nous relever. Le grand mal, à la source de tous les autres maux, c'est le péché. Et le péché, c'est l'oubli de Dieu. La source de tous les malheurs sur terre, la source de tous les châtiments, hein, on peut dire c'est péché originel, mais il y a un péché à l'origine. C'est l'oubli de Dieu et de sa loi. Si Dieu était aimé, et si Dieu était aimé en vérité, le prochain serait aimé par amour pour lui. Si Dieu était aimé, ses lois seraient respectées et nous n'aurions pas toute cette atmosphère de péché du monde moderne qui a rejeté Dieu. Déjà dans l'Ancien Testament, nous voyons que le peuple élu était béni quand il était fidèle et châtié quand il était infidèle. La source de nos malheurs et des malheurs éternels, c'est l'oubli de Dieu. Et qu'est-ce que l'enfer, sinon le lieu où Dieu n'est pas? Avant d'être un lieu où on brûle, c'est tout d'abord l'enfer, le lieu où Dieu n'est pas. Donc, cette deuxième chute, c'est aussi, Seigneur, la souffrance causée par notre orgueil qui a décidé de se passer de vous. Et on peut penser aux paroles de Jésus pleurant sur Jérusalem. Quand il fut proche, voyant la ville, il pleura sur elle, disant, « Si en ce jour, tu avais connu toi aussi ce qui était pour ta paix. Maintenant, cela demeure caché à tes yeux, car vont venir sur toi des jours où tes ennemis établiront contre toi un retranchement. T'investiront et te serreront de toutes parts. Ils t'abattront à terre, ainsi que tes enfants qui sont chez toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le moment où tu as été visité. » Et notre Seigneur se relève de cette deuxième chute, nous invitant à nous relever nous aussi et à réorienter ou à mieux orienter notre vie vers Dieu. Quel que soit notre état de vie, n'oublions pas que nous devons nous en servir pour mieux aimer Dieu et pour mieux faire aimer Dieu. Le but de notre vie, ce n'est pas d'avoir le dernier mot, ce n'est pas d'avoir toujours raison. Le but de notre vie, c'est la charité. et l'on peut avoir le dernier mot dans une dispute familiale sans que ce mot soit charitable. Une vérité qui n'est pas charitable, disait saint François de Sales, procède d'une charité qui n'est pas véritable. Huitième station, et dernière station avant le déjeuner, on a un quart d'heure de retard, mais je pense qu'on aura donc une demi-heure. Mais... Jésus console les femmes de Jérusalem. Et Jésus était suivi d'une grande foule, de peuple, deux femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Se tournant vers elles, il dit « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants, car si le bois vert est ainsi traité, que fera-t-on du bois sec ?» Nous pouvons de ces quelques lignes tirer plusieurs enseignements. Notre Seigneur, bien sûr, ici annonce, prédit aux Juifs la destruction de Jérusalem par Titus, la mise à sac de la ville, la destruction du second temple qui aura lieu 40 années plus tard, en l'an 70. Pleurez sur vos enfants, parce que ça ne va pas être joli. Destruction absolument terrible avec massacre de la population. Il nous rappelle aussi que si lui, l'innocent, le Fils unique de Dieu, le bien-aimé du Père, est ainsi traité sur le chemin du calvaire pour nous racheter de nos péchés, comment seront traités ceux qui ne sont pas purs, ceux qui ne sont pas innocents, ceux qui sont pécheurs, c'est-à-dire nous? Pensons-nous un seul instant que le Fils de Dieu ait eu à subir cette passion effroyable, lui qui est le Dieu Tout-Puissant, qui n'est que bonté et miséricorde, et que nous, nous allons nous échapper sans aucune peine à subir, et que nous allons gagner le paradis qui nous serait dû sans le mériter aucunement? Est-ce que cela serait véritablement justice? Bien sûr que non, et c'est pourquoi notre Seigneur, une nouvelle fois, tente de raisonner nos cœurs en disant aux femmes de Jérusalem, « Ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. » Et c'est vrai que cette annonce du jugement que nous trouvons dans l'Évangile, cet appel à rendre des comptes qui nous sera donné au terme de notre vie, la considération de nos fautes, de nos infidélités, de notre ingratitude, de notre orgueil, de notre égoïsme, tout cela devrait, dans une certaine mesure, nous glacer d'effroi. Comment pouvons-nous espérer nous en tirer, ou tout du moins nous en tirer à bon compte, sans oublier que nous verrons la passion du Christ, nous verrons tout ce que le Seigneur a souffert, et qu'alors Dieu nous fera réaliser combien nous étions, nous, ses bourreaux. Pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Alors bien sûr, nous devons espérer, et l'année nous y invite, espérer dans la miséricorde de Dieu. Bien sûr, nous devons considérer que cette passion a été précisément soufferte pour nous sauver et pour nous racheter, mais tout de même, nous devons nous rendre compte que la balance ne penche peut-être pas forcément du bon côté. Nous aurions tellement pu mieux faire. Pensons au Dies Irae, la séquence de la messe des défunts qui exprime les sentiments qui devraient être les nôtres, jour de colère que ce jour-là où le monde sera réduit en cendres. Et puis cet épisode sur le chemin du calvaire nous rappelle une autre réalité malheureusement trop classique dans nos vies. J'en profite au passage pour vous dire que je, il faut le dire au milieu du chemin de croix, que je ne vous accuse pas de tous les crimes possibles, et quand je dis que nous sommes probablement un peu trop ceci et probablement un peu trop cela, je pense très sincèrement tout d'abord à moi et aussi un peu à vous, car nous sommes tous des enfants d'Ève, mais d'abord à moi. Donc cet épisode nous rappelle une attitude qui peut être la nôtre et la mienne, la nôtre bien facilement, c'est celle, pour reprendre le terme de l'Évangile, de voir très facilement la paille dans l'œil du prochain et ne pas voir la poutre dans le nôtre. Notre supérieur général, qui nous envoie une lettre circulaire à tous les prêtres, tous les 3, 4 mois, 5 mois, dans une lettre il y a quelques années, nous disait donc à nous près de la fratrie Saint-Pierre que nous étions tous capables, très probablement, de dresser une liste de péchés ou une liste de défauts de chacun de nos confrères. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et c'est vrai probablement des épouses quant à leur mari, des membres d'une paroisse, d'une paroisse quant aux autres fidèles, etc., etc., etc. Regardons un peu les gens que nous côtoyons, même au sein de nos familles, et demandons-nous si nous ne trouvons pas pour chacun des tas de choses à corriger, des tas de défauts. Pensons au temps que nous passons souvent à médire, à dire du mal, mais c'est la vérité bien sûr, hein, mais à dire du mal tout de même, à commenter les actions de nos proches, de la voisine, du voisin, de notre mari, de notre curé peut-être, et vous n'avez pas, nous n'avons pas forcément tort. Dans le sens qu'en effet, notre voisine, notre voisin, notre frère, notre sœur, notre curé a peut-être bien fait ceci en effet ou cela de mal. Mais le bon Dieu nous dit aujourd'hui, ne pleurez pas sur eux, mais pleurez sur vous-même. Il est trop facile de regarder notre voisin. Il est beaucoup plus difficile de s'examiner rigoureusement nous-mêmes. Le bienheureux cardinal Newman disait avec justesse, le moyen le plus facile de nous convaincre de l'existence en nous de défauts inconnus de nous-mêmes, c'est de considérer avec quelle facilité nous voyons les fautes cachées d'autrui. Il n'y a bien entendu aucune raison à première vue de supposer que nous sommes matériellement différents de ceux qui nous entourent. Et si nous voyons en eux des défauts qu'eux-mêmes ne voient pas, on peut supposer qu'eux-mêmes font des découvertes à notre sujet que nous serions surpris d'apprendre. Peut-être cette station nous invite-t-elle à corriger quelque chose qui est bien ancré en tant de personnes, et là encore sans doute en moi, cette station nous invite-t-elle à essayer de corriger notre langue. Nous disons souvent du mal des autres. Saint Jacques, dans son épître, chapitre 3, pour la relire tous les soirs à la maison, disait « Mes frères, qu'il n'y en ait pas tant parmi vous qui s'érigent en docteurs, sachant que nous serons jugés plus sévèrement. Car nous péchons tous en beaucoup de choses. Si quelqu'un ne pêche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir aussi tout le corps en bride. Si nous mettons aux chevaux un mors dans la bouche, pour nous en faire obéir, nous gouvernons aussi leur corps tout entier. Voyez encore les vaisseaux, tout grands qu'ils sont, et quoique poussés par des vents impétueux, ils sont conduits par un très petit gouvernail, au gré du pilote qui les dirige. Ainsi la langue est un tout petit membre, mais de quelle grande chose elle peut se vanter. Voyez une étincelle, elle peut embrasser une grande forêt. La langue aussi est un feu, un monde d'iniquité. N'étant qu'un de nos membres, la langue est capable d'infecter tout le corps, et elle enflamme le cours de notre vie, enflammée qu'elle est elle-même du feu de l'enfer. Toutes les espèces de quadrupèdes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent se dompter, et ont été domptées par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau qu'on ne peut arrêter, elle est remplie d'un venin mortel. Par elle nous bénissons le Seigneur et notre Père, et par elle nous bénissons les hommes qui ont été faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la malédiction et la bénédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Saint Jacques, chapitre 3. Donc, je nous invite à essayer de ne plus dire du mal. Nous avons tous des cibles. La belle-mère, bon, j'en ai pas. Le gendre, le mari, l'épouse, la voisine, le patron, les fidèles. Pas trop, quand même. Hein, que nous écorchons vifs régulièrement dans nos conversations. Dans les fidèles, vraiment, on les aime bien. Choisissons celui, nous c'est entre confrères, choisissons celui qui revient le plus régulièrement dans nos critiques et décidons une fois pour toutes de ne plus parler de cette personne en mal. Et pour le faire, eh bien au départ il faudra probablement ne plus parler de cette personne du tout. Comme on ne sera pas capable d'en parler en bien, et faites une croix et dites-vous je ne parle plus à la maison de telle personne parce que ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt, ça se termine toujours mal. Je regrette, après 3 heures, et avoir m'être bien lâché quand même. Voilà. Donc demandons, c'est une grâce vraiment à demander à Dieu si nous voulons nous en corriger, si nous voulons par amour pour Dieu faire ce qu'il attend de nous. C'est une très belle résolution à prendre. Nous perdons beaucoup de temps à dire du mal et il faudrait que l'on puisse voir en nous la bonté, la patience, la charité qui ne rend pas le mal pour le mal et le sourire lumineux d'une âme dans laquelle Dieu habite. Dernier enseignement, c'est très court, ne pleurez pas sur moi mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Ne pleurons pas toutes les minutes comme si la vie que nous vivions était absolument terrible. Bien sûr, il y a des épreuves. Épreuves qui peuvent être terribles, c'est vrai, mais il y a aussi le bon Dieu qui nous aime infiniment. Il y a ce ciel vers lequel nous nous dirigeons. Il y a cette grâce extraordinaire de Dieu, cette présence divine de Jésus dans mon cœur, que tant d'âmes ne possèdent pas et n'imaginent même pas. Revenons encore à la bienheureuse Élisabeth de la Trinité. « J'ai trouvé mon ciel, disait-elle, sur terre. » Car le ciel, c'est Dieu. Et Dieu est dans mon âme. Le jour où j'ai compris cela, tout s'est illuminé en moi. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes le temple du Seigneur. Qui me séparera de l'amour du Christ, disait saint Paul? Personne, si ce n'est nous-mêmes et notre péché. Enfin, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-même. Et nous rejoignons ce que je disais, seul notre péché peut nous séparer de l'amour de Dieu. Donc, ne gémissons pas comme si cela allait contribuer à améliorer la situation autour de nous, mais posons-nous plutôt la question, que puis-je faire? Sainte Véronique, avec son voile, fut plus utile que les pleureuses du chemin de croix. Le cardinal Ratzinger, toujours dans le même chemin de croix de 2005, disait « Il ne sert de rien de pleurer sur les souffrances de ce monde avec des paroles et par des sentiments, alors que notre vie continue toujours égale à elle-même. » C'est-à-dire que nous devons nous convertir et là commencera le renouveau chrétien que nous espérons. Le bon Dieu nous a fait la grâce de vivre à une époque merveilleuse, alors nous pouvons dire que tout va mal, et pourtant il nous a voulu là aujourd'hui, c'est que c'est donc pour nous la bonne époque. La meilleure époque pour nous, il n'y en a pas d'autre, celle qui doit et qui va nous conduire au ciel, donc avec quelques jours d'avance, alléluia.